Oui, alors il est minuit 15, c'est l'heure d'accueillir Jean-François Gay, c'est la chronique Prendre la route. Salut Jean-François.
Salut Jacques.
Ça va?
Ah, ça va bien, quelle belle soirée. Ça, c'est une vraie soirée d'été.
Oui, ah, ça...
Quand le soleil se cache, là c'est là qu'on est bien, mais ça sent les vacances.
On a eu droit à un beau coucher de soleil également. J'ai vu quelques photos passer sur les réseaux sociaux et les gens s'en sont donnés à cœur joie. Il y avait un soleil tout rouge. Enfin, c'était... on essaie de trouver des points positifs. Il y a quand même plus de points positifs que de négatifs. Faut savoir ce qu'on veut. On voulait avoir un été. On a eu froid tout l'hiver. Le printemps était un peu tardif. Mais c'est parce qu'à un moment donné, au Québec, c'est on dirait que des fois, c'est tout ou rien. Hein?
C'est tout un ou tout l'autre.
Hein? Exactement, oui. Mm-hmm. Ouais. Mais c'est sûr que nous, ça va. On travaille dans un environnement climatisé, puis tout ça, ça va bien. Mais malheureusement, c'est pas le cas pour tout le monde. Honnêtement, je sais pas si c'est des lois au Québec, là, quand tu fais 35, chez nous, il faisait 36 aujourd'hui. 36, avec un taux d'humidex, je pense, à 44-45. Il doit y avoir des lois là, qui font en sorte qu'on peut pas obliger des gens à travailler à l'extérieur, travailler, tu sais, bon, ceux qui travaillent physiquement, là, c'est impensable.
Ben, il me semble qu'au niveau de mettons les gens qui travaillent sur la construction, ils ont il y a des rotations là, avec les employés. Là. Je pense que on y va là, sans précision, là, mais ils doivent travailler tant
de
minutes.
Peut-être qu'ils prennent davantage de repos. Enfin, plus. Sais qu'il y a un entrepreneur qui a offert des Mr. Freeze à ses employés.
Bon, tu vois.
Non, mais c'est gentil quand même.
Mais tantôt, là, tu m'as fait réfléchir. J'ai eu une pensée pour ces gens-là depuis quelques jours dans les CHLD.
Ah.
Hein? As-tu bien compris dans ton introduction, tu disais qu'il fallait qu'ils payent pour la climatisation?
Exactement, c'est ce que j'ai vu à Radio-Canada, il y avait un reportage, 200, je pense que c'est 235$ par mois. Alors ça veut dire pour les trois prochains mois, chaque mois, ils doivent payer 235.
Alors,
on a interrogé des gens qui demeurent dans les CHSLD, des gens, tu vois, qui, bon, ils l'ont pas facile, là, mais qui vivent de l'aide sociale. Comment est-ce qu'on va faire pour payer ça?
Ben, c'est comme la télévision, là, d'un CHLD, là, ça coûte une fortune, louer ça. Puis dans les hôpitaux, c'est la même
affaire. Honnêtement, je trouve ça indécent, honnêtement. Ben, honteux, même.
Oui, parce que là, on pourrait faire une émission là-dessus, là, mais... Tu regardes l'argent qui se dépense dans d'autres domaines.
Mais comme le disait monsieur, comment ça s'appelle, monsieur Brunet de l'association là, des personnes, je sais pas trop.
Oui, des personnes du troisième âge. Là.
Ouais,
les aînés.
Ouais, peut-être. Mais enfin, lui, il a tellement raison de dire, quand on demeure, par exemple, dans un CHSLD, ben l'hiver, on a le droit à avoir de la chaleur, puis l'été, on a le droit de vivre dans un environnement où c'est possible d'être confortable, voyons donc.
Ben oui,
on devrait pas payer en plus pour ça, là.
Non, puis ces gens-là, c'est nos aînés, toute la belle société dans laquelle on vit, Jacques, là, c'est eux autres qui ont mis ça en place, puis nous autres, on en profite aujourd'hui, puis on leur rend pas l'appareil. Moi, ça... Écoute, là, tu me pars quand on parle de ça. Moi, ça me révolte, là.
Ah non, c'est...
T'sais,
non,
on parle souvent des enfants, il faut les protéger, tout ça, les prisonniers, tout ça, mais nos personnes âgées, ça apprécie.
Ouais.
Ça se peut pas.
On vit dans une société comme ça. Qu'est-ce que tu veux? On pourrait y revenir. On va peut-être même y revenir. Il y a peut-être des gens qui auront des opinions bien précises là-dessus quand on va commencer à 1h la tribune téléphonique.
Ouais.
Bon, à part de ça, je t'en maudis.
Oui, pour?
Ben, ce soir, j'ai laissé ma voiture toute la journée, évidemment, à l'extérieur. Il a fait chaud. Il a fait très chaud.
Ouais.
Et ce soir, en démarrant ma voiture, mon système de on peut appeler ça un faux divertissement.
Oui, hein, un faux divertissement.
Qu'on l'appelle.
Véhicule.
Le téléphone, le GPS, la radio, rien ne fonctionne.
Bon.
L'écran est noir. Mais j'ai un bouton avec commande vocale.
Ouais.
Puis là, Armand, elle me dit, quand j'appuie dessus, je lui dis, je sais pas moi, radio.
Mm-hmm.
Puis là, elle me dit, un instant, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. J'ai entendu ça pendant une demi-heure de temps. Un instant, s'il vous plaît. Puis, alors, il n'y a plus rien qui fonctionne. Est-ce que, je pose la question à l'expert automobile, est-ce que c'est possible que la chaleur puisse provoquer des dommages à nos systèmes électroniques dans les voitures?
Bien, par réflexe, je te dirais, moi, si on prend notre cellulaire, par exemple, je prends mon iPhone, moi, avant-hier, je l'ai laissé au soleil pendant 5 minutes. J'ai voulu, après ça, utiliser le téléphone, puis le téléphone, c'était... débrancher lui-même. Comme tu disais tantôt, il y avait un écran noir, puis il a fallu j'attendre que le téléphone refroidisse pour qu'il puisse redémarrer. Là, est-ce que c'est la même chose? Admettons que dans un habitacle...
Là, ça me dit que, parce que j'ai aussi un petit écran là devant moi, là.
Mm-hmm.
Je parle pas de l'écran principal, là, mais devant moi, là, je peux voir les commandes que je fais, et ça me dit que le système est désactivé.
Bon, là, ça prendrait d'abord, peut-être, il faudrait que tu ailles voir le concessionnaire pour qu'il fasse un, en bon québécois, un resetage, un resetage.
Un reset.
Un reset, oui. Mais,
mais c'est parce que j'ai déjà eu le même genre de véhicule, puis j'ai déjà eu le même genre de problème. Mm-hmm. J'avais changé le système 3 fois. J'espère que je ne suis pas en train de revivre ça encore, là.
C'est possible, Jacques. Mais tu vois, on parle de fiabilité automobile. Tu sais-tu qu'on parle de ça avant de parler des essais routiers? J'ai une étude intéressante.
Ben oui, donc.
Que je t'ai, t'en as une copie devant toi. J.D. Power. J.D. Power, c'est une firme américaine qui est reconnue là pour faire des études sur la fiabilité, la qualité initiale des véhicules. Et puis là, ils ont interrogé, il y a 75 712 répondants, c'est-à-dire des propriétaires, des locataires qui ont accepté de répondre à plus de 200 questions du sondage. Puis ça, ça concerne la qualité initiale de fabrication des véhicules neufs dans les 90 jours suivant leur achat. Mmh. Ça veut dire là que quand tu achètes un véhicule, dans les 90 jours que tu prends possession, il y a des véhicules qui ont des problèmes techniques. Et puis là, ben ils ont fait un sondage pour savoir quels étaient les véhicules les plus fiables, c'est-à-dire ceux qui retournent le moins souvent chez le concessionnaire. Et puis là, imagine-toi que les 3 premières places, je pense que c'est une première, là, au niveau nord-américain, c'est 3 marques sud-coréennes.
Donc, au niveau de la meilleure fiabilité.
La meilleure fiabilité au niveau de la qualité initiale.
Ben,
ouais. On a Genesis, la marque de luxe de Hyundai, en première position. En deuxième position, on a Kia. Après ça, on a Hyundai. Puis quand on parle Genesis, 68 problèmes rencontrés par 100 véhicules dans les 90 jours. Kia, c'est 72 problèmes par 100 véhicules. Et Hyundai, c'est 74 problèmes par 100 véhicules. Et ce qui est remarquable aussi, encore une fois, on a la moyenne de l'industrie, c'est 93 problèmes par 100 véhicules. Et il y a 5 marques...
93 problèmes par 100 véhicules?
Oui.
Beaucoup.
Ben, c'est pas un problème par véhicule. Mettons, si on avait 100 problèmes par 100 véhicules, ça veut dire que la moyenne serait là qu'il y a chaque véhicule, dans les 90 jours, a eu un problème.
Un petit problème, oui. Ouais.
Mais à 68 problèmes par 100 véhicules, Genesis, c'est bon. Puis la moyenne là, de l'industrie, c'est 93. Mais ceux qui se classent mieux que la moyenne, on a nommé tantôt les 3 Coréens, après ça, on a Porsche, ce qui n'est pas une surprise. On a Ford, ça c'est une surprise. Chevrolet, c'est une surprise. Lincoln, c'est une surprise aussi. Après ça, on a Lexus, on a Ram, les camionnettes Ram, qui depuis des années ont dit que ces véhicules-là, les camionnettes Ram ne sont pas fiables par rapport aux camionnettes GM, camionnettes Ford. Mm-hmm. Mais là, non. Chrysler, là-dessus, ont fait leur devoir. Et après ça, on a Nissan et BMW. Cadillac, Mini, puis là, on pourrait aller jusqu'à la fin. Puis là, à la fin, là, la marque la moins fiable, c'est Land Rover.
Ah oui?
Qui n'est pas une surprise, parce que Land Rover, il y a tellement de gadgets électroniques, que ce soit des gadgets à l'intérieur du véhicule, au niveau de l'habitacle, au niveau des écrans.
Mais là, je vois sur la liste, il y a effectivement, le pire, c'est Land Rover.
Ouais.
Pas très loin derrière, il y a Jaguar.
Ouais.
Volvo.
Oui.
Quand même des véhicules qui sont pas donnés, là.
Oui, mais Volvo ont toujours eu des petits problèmes au niveau de la fiabilité. Jaguar, c'est un peu... Jaguar, c'est déjà classé parmi les 5 premiers. Il fait une époque, même, il était dans les 2 premiers. Ils ont déjà été 2e. Mais là, tu vois, là, moi, je pense que Jaguar a dégringolé comme ça parce qu'il y a beaucoup de nouveaux modèles.
Oui.
Tu sais, quand tu as des modèles qui sont... d'une année à l'autre, qui reviennent pratiquement échangés, bon, ils ont le temps de remodeler le modèle, de le parfaire, d'en faire un meilleur véhicule. Sauf que quand tu as des nouveaux modèles, on pense au F-Pace, on pense au camion, on pense aussi à la nouvelle, la petite Jaguar qui vient d'arriver. Ça fait en sorte là qu'il y a plus de problèmes.
Dans la liste aussi, je remarque que dans le milieu de peloton, ou à peu près, on retrouve Toyota. J'en parle parce que Toyota a toujours été reconnu pour sa grande fiabilité. Est-ce à dire qu'ils perdent des plumes un peu?
Ils ont perdu des plumes.
Ouais.
Ils ont perdu des plumes. Mais on s'entend que J.D. Power font souvent, quand ils font une étude, là, habituellement, c'est sur 3 ans. Là, c'est un peu exceptionnel. Ils ont fait ça dans les 90 jours suivant l'achat. Puis le véhicule le plus fiable de l'industrie, c'est la Porsche 911, qui a seulement 48 problèmes par 100 véhicules. Et si on continue, la camionnette la plus fiable, tantôt on a parlé du Ram, qui avait quand même pas beaucoup de qui avait quand même gagné en fiabilité. Mais la camionnette la plus fiable, toute catégorie confondue, c'est la Chevrolet Silverado 1500. Et la petite voiture, la sous-compacte la plus fiable au niveau de la qualité initiale de fabrication, c'est la Kia Rio. Au niveau des sous-compacts, des camions compacts, c'est-à-dire on a le Hyundai Tucson. Et dans les grandes berlines, moi je suis surpris de ça, c'est la Nissan Maxima. Il y a aussi la Nissan Altima, mais la Maxima se classe très bien. Parmi les autres véhicules, vous avez aussi... on a-tu le temps de faire la liste au complet ou...
Bon, il reste à peu près une minute avant la pause. Oui, on a peut-être le temps de donner davantage d'informations. Oui,
ouais, bien, un véhicule très fiable. Là, vous avez l'Acura ILX, qui est la petite Acura. Vous avez la BMW Série 4, c'est-à-dire le coupé, là, de, l'équivalent de la Série 3. Le BMW X1, BMW X6. Donc, BMW me surprend, parce que c'est habituellement les marques allemandes, Jacques, au niveau de la fiabilité, c'est coussi coussa. Ouais. Vous avez le Buick Envision, Dodge Grand Caravan. Qui était quand même intéressant. Dodge Grand Caravan, souvent, on dit que Dodge et Chrysler ont des problèmes de fiabilité. Mais là, au niveau de la qualité initiale de fabrication, le Caravan, c'est la plus, c'est la voiture la plus fiable dans les 90 jours de l'achat, selon l'étude. Vous avez le Ford Expedition, Ford Mustang, le Kia Sorento, Lincoln Continental, la grande berline de Lincoln. Et Lincoln MKC, un petit VUS de taille compacte. Mercedes GLA et le Nissan Frontier, la petite camionnette.
Ouais.
Et la Toyota Corolla.
Parfait. Mais en terminant avant la pause, je sais pas, à moins que je me trompe, là, mais on semble dire aussi que de façon générale, les véhicules, toutes marques confondues, sont quand même plus fiables qu'il y a quelques années.
Oui, si on regarde il y a 5 ans, il y avait 116 problèmes par 100 véhicules, puis là, actuellement, il y en a 93. Donc c'est une amélioration.
Les choses s'améliorent.
Ouais.
Il y a juste moi qui n'ai pas chanceux. Merci beaucoup. Parfait. On va donc faire une première pause. Et ensuite, on s'embarque dans des essais routiers, si je peux dire, en commençant avec la Mitsubishi Outlander après la pause.